Les midi et demi sur France Culture. C'est l'heure pour vous de retrouver le journal d'Antoine. Merci Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le Hezbollah en passe de confirmer son emprise sur la scène libanaise après les premières élections législatives depuis près de 10 ans, correspondance à Beyrouth avec Omar Waman. En Israël, un membre du gouvernement affirme que ce score du Hezbollah montre qu'Israël ne devra pas faire de différence maintenant entre l'État libanais et la milice chiite en cas de guerre. Précision d'Étienne Monin à Jérusalem. Les premières municipales libres en Tunisie, marquées par une forte abstention. Un institut de sondage donne le parti islamiste Ennahda en tête. Analyse avec Benoît Bouscarel. Vladimir Poutine réinvestit ce matin à la présidence de la Russie pour son 4e mandat courant jusqu'en 2024. Je ferai tout pour augmenter la puissance, la prospérité et la gloire de la Russie, déclare-t-il lors d'une cérémonie solennelle au Grand Palais du Kremlin ce matin. Les conflits sociaux en France. Édouard Philippe rencontre tour à tour les syndicats de cheminots. Aujourd'hui, à sa sortie de Matignon, le secrétaire général de la CGT cheminot déclare que le chef du gouvernement n'a fait aucune annonce nouvelle et que donc la grève se poursuivra. On fera le point avec Hakim Kasmi. Et puis l'action d'Air France KLM qui perd ce matin plus de 13% à la Bourse de Paris après l'annonce de la démission du PDG du groupe. Hier, le gouvernement avertissait que l'État ne viendrait pas à la rescousse du transporteur aérien. Analyse avec Mathilde Bénézé. L'invité de la séquence interview, Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Gesbert.
Avec votre invité, Antoine Mercier, vous parlerez sûrement de cet anniversaire. Première bougie donc pour Emmanuel Macron aujourd'hui. On en parlera aussi avec le philosophe Régis Debray, qui signe de son côté un bilan de faillite chez Gallimard, un bilan de faillite personnel et collectif. Il sera donc avec nous pour en discuter à partir de 12h55.
Et voilà donc le Hezbollah en passe de confirmer son emprise sur la scène libanaise. Le Hezbollah et ses alliés qui remportent le scrutin selon les dernières informations. En tout cas, c'était les premières élections législatives depuis près de 10 ans dans le pays. Elles ont peu mobilisé, mais donc les premières tendances donnent une majorité au parti islamiste chiite qui est allié à la fois, on le sait, au régime iranien et au régime syrien et qui devrait remporter plus de la moitié des sièges du Parlement. Résultat qui, s'il se confirmait, renforcerait donc politiquement ce parti qui obtiendrait cette majorité de 108 sur les 108 sièges au Parlement, correspondance d'Omar Waman.
Le Hezbollah a jeté toutes ses forces dans cette bataille électorale. Discours de son chef Hassan Nasrallah plusieurs fois par semaine. Propagande sur les réseaux sociaux pour qualifier ses opposants d'espions à la solde d'Israël et manœuvre en coulisses pour nouer des alliances. L'objectif du Parti de Dieu, limiter l'influence des États-Unis et de l'Arabie Saoudite qui soutiennent le courant du futur parti sunnite du Premier ministre Saad Hariri. Les résultats qui se dessinent et qui seront annoncés officiellement dans les prochaines heures dépassent les espérances du mouvement chiite et de ses alliés. Selon des informations provenant de plusieurs formations politiques et relayées par les médias libanais, il devrait remporter plus de la moitié des 128 sièges que compte le Parlement. Ce qui permettrait au Hezbollah de garder son contrôle sur les décisions du gouvernement et surtout d'empêcher ses ennemis d'ouvrir l'épineux débat sur la question de son armée. Le puissant mouvement chiite étant la seule milice à ne pas avoir abandonné ses armes après la guerre civile. C'est le principal message que veut envoyer le Parti de Dieu à la communauté internationale. En contrepartie de cette mainmise, le Hezbollah ne devrait pas s'opposer au maintien de Saad Hariri à la tête du gouvernement libanais.
Les résultats regardés de près et avec une certaine inquiétude en Israël, alors que la tension est déjà manifeste entre l'Iran et ses alliés. Le chef du parti Le Foyer Juif, ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, affirme que le score du Hezbollah montre que l'État libanais se confond dorénavant avec le groupe chiite qui est soutenu par l'Iran et que de ce fait, Israël ne devra pas faire de différence entre les deux en cas de conflit. Un autre ministre qui est membre du cabinet de sécurité, Yuval Steinitz, ministre de l'Énergie, déclare qu'Israël pourrait lui tuer le président syrien et renverser son gouvernement si l'Iran utilisait le territoire syrien pour attaquer Israël. Si Assad laisse l'Iran transformer la Syrie en base militaire contre nous pour nous attaquer du territoire syrien, eh bien, il doit savoir que ce sera sa fin. Fin de citation. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Alors que le monde entier attend maintenant cette décision américaine sur l'accord nucléaire iranien, ce sera pour la fin de la semaine, plusieurs signes et déclarations laissent planer cette menace de confrontation directe au Proche-Orient.
La tension clairement ne cesse de monter, mais pour l'instant elle est déclaratoire. L'affrontement direct entre Israël et l'Iran a déjà eu lieu à deux reprises ces derniers mois. Il y a maintenant une crainte de représailles du côté israélien et l'appareil militaire ce week-end a rendu public des informations alarmantes. En résumé, Israël a détecté des signaux de préparation. L'armée craint une opération qui pourrait impliquer le Hezbollah, les milices chiites en Syrie et les gardes révolutionnaires iranien. L'ampleur de cette réplique pourrait être limitée. Les stratèges israéliens considèrent que l'Iran ne souhaite pas déclencher une guerre. Il est soupçonné de vouloir bombarder certaines positions militaires israéliennes dans le nord du pays pour limiter cette réplique. Israël est aujourd'hui sur deux fronts avec l'Iran. Le Premier ministre fait campagne pour le retrait américain de l'accord sur le nucléaire et l'appareil militaire est fortement préoccupé par la situation en Syrie. C'est une ligne rouge fermement défendue. Israël ne veut pas d'implication militaire iranienne sur place. Elle a déjà frappé à plusieurs reprises. Cette double conjonction crée une situation de tension avec un risque sérieux aujourd'hui de confrontation à l'échelle régionale.
Étienne Monin, merci beaucoup, en direct de Jérusalem. Et puis des ouvriers ont installé ce matin à Jérusalem les premiers panneaux qui indiquent la direction de l'ambassade des États-Unis qui doit ouvrir le 14 mai prochain. À propos de l'accord encore sur le nucléaire, le président iranien Hassan Rouhani déclare que les États-Unis vont regretter la décision d'abandonner cet accord, donc de 2015, et que Téhéran résistera farouchement aux pressions américaines pour limiter son influence au Moyen-Orient. Le vote était jugé crucial pour enraciner la démocratie dans l'unique pays rescapé du printemps arabe. Les premières municipales libres de Tunisie ont été marquées par une très forte abstention. Il y a un institut de sondage qui donne le parti islamiste Ennahda légèrement en tête avec un quart des voix, devant le parti présidentiel Nida Tounes avec 22%, tous deux qui sont assez loin d'ailleurs devant les autres formations. Benoît Bouscarel, bonjour.
Bonjour Antoine.
Comment d'abord comprendre ce bon score des islamistes?
Alors d'abord, on a pour l'instant que des sondages. Les résultats définitifs ne doivent être officialisés que mercredi. Il est vrai, cela dit, que Ennahda semble arriver de quelques points devant les modernistes du parti présidentiel. Cela dit, cette victoire est toute relative et entachée par une abstention, vous l'avez dit, très importante. En pourcentage des électeurs inscrits, les scores des vainqueurs seront partout très faibles. À Tunis, par exemple, les sondages donnent la candidate d'Ennahda, une femme non voilée, Souad Abderrahim, comme probable futur maire de la capitale. Les islamistes en feront un symbole à la fois de leur puissance, de leur victoire et de leur ouverture. Mais voilà, à Tunis, un électeur sur quatre seulement s'est rendu aux urnes hier.
Il faut dire que ce sont les jeunes aussi qui ont très peu voté.
Et pourtant, la moitié des candidats avaient moins de 35 ans, beaucoup affiliés à des listes dites indépendantes. Mais voilà, pour beaucoup d'électeurs, les arguments de façade n'ont pas suffi. Et les Tunisiens auraient voulu protester contre les mauvais résultats des politiques en place depuis 2011 et depuis 2014, qu'ils ne s'y seraient pas pris autrement. Il faut dire que la Tunisie est en situation de quasi-faillite et que pour les jeunes, justement, le taux de chômage est deux fois plus élevé que la moyenne, à 30%. Alors finalement, c'est l'abstention différentielle qui a joué et qui a sauvé, en quelque sorte, et Ennahda, qui a pu aussi compter sur une implantation locale ancienne et sur une bonne campagne. Le parti islamiste a su notamment mettre en avant son souci de faire continuer le processus démocratique en cours. Ennahda d'ailleurs a annoncé ce matin par la voix de son porte-parole vouloir maintenir le consensus avec Nida Tounes. C'est ce qu'on pourrait appeler le consensus des éclopés qui va se maintenir donc.
Benoît Bouscarel, merci. Vladimir Poutine réinvestit ce matin la présidence de la Russie pour son quatrième mandat, donc il en a pour jusqu'en 2024. Cérémonie solennelle au Grand Palais du Kremlin avec des déclarations tout aussi solennelles. Je considère comme mon devoir, comme le sens de ma vie, de faire tout mon possible pour la Russie, pour son présent, pour son avenir. Il a prêté la main, serment la main sur la Constitution, en affirmant encore toute notre beauté, toute notre force et dans notre authenticité culturelle et dans notre unité. Voilà pour ces déclaration du président russe ce matin. L'actualité française avec la grève à la SNCF contre le projet de réforme du gouvernement qui se poursuivra, c'est ce que déclare en tout cas ce matin Laurent Brun, secrétaire général de la CGT cheminot, au sortir d'un entretien avec le Premier ministre à Matignon. Selon lui, le chef du gouvernement n'a fait aucune annonce nouvelle et pour la première fois, donc effectivement, depuis le début de ce conflit, Édouard Philippe rencontre tour à tour les syndicats tout au long de la journée. Il affirme vouloir discuter de la dette, mais sans toucher à la réforme. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine Mercier.
Alors pour l'instant, au vu des réactions qui ont eu lieu depuis ce matin, les syndicats ne semblent pas vraiment satisfaits de ces propositions nouvelles et d'ailleurs se demandent s'il y en a vraiment.
Oui, effectivement, pas de véritable sourire ce matin. L'intersyndicale reconnaît au moins une chose, c'est que désormais, elle peut discuter directement avec Édouard Philippe pour tenter de négocier. Le gouvernement a bien précisé les choses, pas question de revenir sur le statut ni sur l'ouverture à la concurrence. Désormais, syndicats et Matignon ont 3 semaines pour discuter. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, prévient, pas question pour le gouvernement qu'il joue la montre.
Quand il y a un conflit de cette nature, je ne sais pas si c'est la bonne méthode de jouer la montre. Il y a besoin de réponses précises pour les cheminots, il y a besoin de réponses précises pour les citoyens de ce pays qui sont attachés au service public ferroviaire. Et je trouve que le gouvernement joue un drôle de jeu, comme le président de la République, à toujours vouloir opposer les citoyens entre eux, plutôt que d'essayer de répondre à leurs légitimes revendications, aux besoins de services publics dans ce pays.
Répondre aux revendications, désormais l'intersyndicale et le gouvernement ont 3 semaines, car à la fin du mois, le texte arrive au Sénat. C'est pourquoi la CFDT va proposer 40 d'amendements pour tenter d'améliorer le projet de loi, notamment par rapport au sac à dos social. En cas de la perte d'un appel d'offres, puis vous le savez, les salariés de la SNCF devront partir dans le privé avec l'ouverture à la concurrence. La CFDT veut s'assurer que les salaires et le statut de ceux qui le garderont jusqu'en 2020 sera bien maintenu. L'intersyndicale doit se retrouver mercredi prochain, dans 2 jours. Quant à la grève, elle reste pour l'instant maintenue, Antoine.
Voilà, donc déclaration de Hakim Kasmi en direct de Matignon, intervention sur cette journée concernant les consultations à propos du conflit à la SNCF. On passe maintenant à l'autre conflit en cours important dans les transports, c'est le conflit d'Air France avec une action d'Air France KLM qui a perdu ce matin plus de 13% à la Bourse de Paris, annonce de la démission du PDG du groupe qui plonge donc le transporteur dans l'incertitude. Vendredi, Jean-Marc Janaillac avait démissionné après le désaveu des salariés qui ont rejeté la proposition mise sur la table par la direction pour sortir du conflit en cours. Le conseil d'administration a demandé au PDG démissionnaire d'assurer tout de même ses fonctions au moins jusqu'au 15 mai, date à laquelle une gouvernance de transition, c'est l'expression utilisée, va être mise en place. Et hier, le gouvernement avertissait que l'État ne viendrait pas à la rescousse du transporteur aérien. Ce matin encore, le chef de file des députés de la République En Marche, Richard Ferrand, prévient que le fait d'arborer le pavillon national n'est pas une garantie de survie éternelle. Non, la survie d'Air France n'est pas en jeu, assurait pourtant ce matin Philippe Évin, qui est le président du syndicat national des pilotes de ligne. Alors que nous sommes maintenant au 14e jour de cette grève en 2 mois et demi, Mathilde Bénézé, on s'interroge sur l'évolution du rapport de force entre direction et syndicat après l'échec de ce référendum.
Tout à fait. Le rejet des propositions de la direction d'Air France lors de la consultation a tout d'abord sonné comme une victoire pour les syndicats. Mais aujourd'hui, avec la démission de Jean-Marc Janaillac, le climat social semble plus tendu que jamais et le dialogue est au point mort. Preuve de ce malaise, Philippe Évin, président du syndicat de pilotes SNPL, a déploré la démission du président d'Air France, plutôt aimé dans l'entreprise, selon ses mots. Le soir de sa démission, Jean-Marc Janaillac a par ailleurs fait savoir aux organisations syndicales que les négociations resteraient en suspens tant qu'un remplaçant ne lui serait pas trouvé. Pendant ce temps-là, le cours des actions d'Air France a dévissé ce matin et beaucoup accusent les syndicats de mettre en péril l'avenir de la compagnie. On assiste ainsi à une crispation du côté du gouvernement. Sûr de la victoire de la direction, Bruno Le Maire s'était en effet montré favorable à la consultation, mais avec le résultat surprise en faveur des syndicats, le ministre de l'économie a durci le ton. Dimanche, il a en effet déclaré sur BFM TV que la survie de la compagnie était en jeu et que l'État n'était pas là pour éponger les dettes de la compagnie. Le message est clair, le gouvernement ne servira pas de bouée de sauvetage, une manière de mettre sous pression les salariés pour les pousser à reculer. Le départ de Jean-Marc Janaillac et la situation périlleuse dans laquelle se trouve Air France pourrait toutefois rebattre les cartes. Le futur président pourrait se retrouver forcé à négocier avec les salariés pour mettre un terme à la crise et sauver l'entreprise.
Mathilde Bénézé, merci. Il est 12h45, 1h15 sur France Culture. C'est l'heure de l'invité de la séquence interview, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour madame.
Bonjour.
Ce soir, sur France 3, le documentaire de Bertrand Delay qu'on recevait dans ce journal vendredi sur l'année de pouvoir du président Macron. Et dans une des interviews exclusives qui est son contenu donc dans ce documentaire, le chef de l'État est revenu sur la baisse des APL de 50 euros pour critiquer ceux qui pensent que le summum, c'est son expression, le summum minimum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL. On écoute cette intervention et le chef de l'État fait allusion au drame qui a endeuillé la France il y a quelque temps avec le commandant Beltrame.
Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs. Quelque chose d'une guerre qu'il dépasse. Et les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu. C'est un amour de la liberté au-delà de tout. C'est une volonté de l'égalité réelle.
Alors hier, le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, Julien de Normandie, reconnaissait sur France 3 que cette baisse des APL avait été une mauvaise décision. Nous avons corrigé la chose, dit-il, et demain, il n'y aura plus aucun perdant donc pour ces allocations logement. Marlène Schiappa, est-ce qu'on peut reprocher à ceux qui sont finalement à 50 euros près pour la fin du mois de ne pas être en mesure de vibrer à cet absolu que constituerait notre histoire?
Je pense que ce ne sont pas ces personnes que vise et que désigne le président de la République, j'en suis même sûre. Ce que veut dire par là le président de la République, il parle des gens qui instrumentalisent cela politiquement. C'est la même chose quand il avait parlé des cyniques. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était pendant sa campagne, donc il y a un peu plus d'un an désormais, il avait dit qu'il voulait lutter contre les cyniques dans ce pays qui avaient ce qu'il appelle des passions tristes. Et je crois que c'est ça que propose le président de la République, c'est justement de sortir de ces passions tristes, de sortir du cynisme et d'aller vers un absolu positif, vers ce qui représente le pays positivement.
Stéphane Robert.
On est à un an après l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il y a tout un tas d'enquêtes qui sont sorties. Il y en a une notamment qui nous montre que 45% des Français jugent positivement l'action du chef de l'État, 55% négativement. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ?
Écoutez, je vais vous répondre que nous ne sommes pas gouvernés par les sondages. Ça peut paraître une formule, mais c'est la réalité. Ce que veut le président de la République, c'est transformer profondément ce pays, le changer en profondeur. C'est pas mettre des pansements sur telle ou telle chose, c'est pas faire de la gestion, comme il le disait à l'instant, de syndic de copropriété, mais véritablement transformer un certain nombre de choses dans le pays. Donc, il y a des réformes qui sont populaires, d'autres qui le sont moins. Je pense que ce qui est important, c'est la cohérence globale, et ce sont les résultats que nous aurons à 5 ans. Vous savez, la présidence nous a dit qu'elle s'arrêtait à 100 jours, qu'on serait jugé sur les 100 premiers jours et qu'au-delà, on ne pourrait plus rien faire. On a vu que ça n'était pas le cas. Ensuite, on nous dit que c'est 365 jours. Je crois que ça n'est pas le cas non plus. Il reste encore 4 ans au moins au président de la République pour achever sa transformation.
Dans le documentaire qui sera diffusé sur France 3, on voit que le chef de l'État, il l'a souvent fait référence au roi de France, fait référence à l'histoire, au passé, et oui, il compte incarner cette dimension de continuité historique. Comment vous comprenez cela dans la politique qu'il conduit aujourd'hui en disant qu'il faut tout transformer, tout faire bouger, alors que par ailleurs il veut incarner cette continuité?
Bien sûr, mais moi vous savez, je crois que les Français sont dans une forme de paradoxe. On est à la fois extrêmement attachés à notre histoire et notamment à la Révolution française, qui est l'événement fondateur du pays tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec les valeurs qui ont été portées par la Révolution. Et dans le même temps, c'est vrai que je crois que la France a un besoin d'incarnation qui se retrouve dans ce que propose le chef de l'État, dans un président. Et d'ailleurs, la Ve République, elle est fondée sur cela. Elle est fondée sur un président de la République qui incarne véritablement l'État. Et je crois que d'ailleurs, l'engouement des Françaises et des Français pour la personne de Brigitte Macron, elle trouve sa réponse aussi là-dedans, dans ce besoin d'incarnation de quelque chose qui nous dépasse.
Incarnation, pour Brigitte Macron, ça serait incarnation de quoi ?
Mais je pense que les Français ont besoin d'avoir un couple à leur tête. Alors je sais que c'est extrêmement politiquement incorrect de dire cela, mais je crois que l'explication, elle est quasiment freudienne. On est un peuple romanesque, romantique et qui aime avoir un couple à sa tête. Et c'est la vérité, c'est ce que l'on observe. Il suffit de voir le nombre de courriers et la popularité de Brigitte Macron pour le comprendre.
Est-ce qu'il n'y a pas une dérive monarchique quand même? Est-ce que c'est souhaitable ça? Il y a un papier publié par le journal Le Monde ce week-end de Solène de Royer et Bastien Bonnefou qui titrait Emmanuel Macron sur la voie royale. Et dans laquelle il rappelait que Emmanuel Macron, à l'occasion d'une interview de nos journal Le Point l'été dernier, disait se sentir dépositaire de l'imaginaire véhiculé par le roi Louis XIV. Alors, est-ce qu'il y a cette dérive monarchique, vous la voyez ou pas? Et est-ce que c'est souhaitable, selon vous?
Moi, j'appelle pas ça une dérive monarchique, j'appelle ça la continuité de la France. Et effectivement, c'est incarner la France, c'est aussi incarner son histoire. Et c'était ce que l'on avait observé quand le président, alors en campagne, était allé notamment aux fêtes de Jeanne d'Arc, pour dire que finalement, il se reconnaissait aussi dans Jeanne d'Arc, comme il se reconnaît dans toutes les figures historiques de la France. Moi, vous savez, je crois que pendant le dernier quinquennat, on a cruellement manqué de cette incarnation. Et je pense que ce que les Français ont reproché à François Hollande, c'est pas tant sa politique, puisque si on regarde le bilan factuellement, il y avait des choses positives dans la politique menée par François Hollande, mais c'est ce défaut d'incarnation. On a manqué pendant 5 ans d'un président de la République qui incarne l'État français dans toutes ses composantes. On le retrouve depuis 1 an avec Emmanuel Macron.
Vous parliez des réformes tout à l'heure qui sont censées transformer en profondeur et durablement le pays. Il y a la semaine dernière, Emmanuel Macron, qui, à l'occasion d'une interview donnée au magazine Forbes, annonçait qu'il allait supprimer l'exit tax. Ça, c'était pas au programme au moment de la campagne présidentielle. On avait comme invité la semaine dernière Gilles Carrez, ex-président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Et il estimait, lui, alors qu'il a soutenu la suppression de l'ISF, que ça, c'était une bêtise et qu'on était là, disait-il, dans des petits arrangements entre banquiers d'affaires.
Comme nous y allons. Moi, je crois qu'il faut. On peut choisir de sortir du contexte telle ou telle réforme, telle ou telle proposition. On pourrait choisir, si on veut, n'en citer qu'une, de parler de la suppression de la taxe d'habitation, qui est toujours l'impôt le plus injuste et le plus inégalitaire et qui frappe davantage les classes moyennes en proportion de leurs revenus. Ça, c'est une réforme profonde qui est importante, qui transforme véritablement la fiscalité de notre pays. On pourrait parler aussi de l'augmentation du minimum vieillesse, de l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. C'est une transformation globale et on revoit le système globalement. L'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de tabou, qu'on regarde ceux qui fonctionnent ou ceux qui ne fonctionnent pas. En l'occurrence, l'exit tax, je pense qu'il était important de la revoir et le président de la République a raison de la mettre sur la table. Mais c'est anecdotique au regard de tout le reste, de tout ce que nous faisons, notamment par exemple pour l'éducation. Doubler les classes de CP en REP et REP+, donc dans les territoires qui en ont le plus besoin, je crois que c'est une mesure fondamentale de transmission des valeurs républicaines et de l'éducation sur tous les territoires de la France.
On voit bien quand même que cette image de président des riches est en train de s'installer durablement. Ça vous convient ?
Ça ne me convient pas parce que ça n'est pas juste, parce que ça n'est pas la réalité. Je crois au contraire que ce qui tient à cœur de ce gouvernement, c'est de faire en sorte de mener des politiques qui soient les plus justes pour tous, de transformer véritablement complètement. Quand le président de la République disait qu'on est un pays qui a été un peu sous morphine d'argent public, c'est vrai que pendant des années, le réflexe, ça a été le carnet de chèques à gauche ou à droite. Ça a été de sortir de l'argent, des subventions, etc. sans regarder forcément l'efficacité. Là, on fait une action de transformation plus profonde que cela.
Ce qu'on ne voit pas bien quand même, c'est comment on va articuler l'idée de transformer l'État, c'est-à-dire de le réduire finalement, globalement, de faire des économies, pour ensuite incarner quelque chose au niveau de la mondialisation sans s'y perdre, finalement, sans s'y noyer. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui garantit que la France puisse survivre effectivement dans ce grand bain?
Bien sûr. D'abord, moi, je ne crois pas, mais ça, c'est mon analyse politique personnelle, je ne crois pas que faire des économies à l'État, ce soit un but en soi. Je crois que, comme disait Saint-Exupéry, pour faire construire un bateau à des hommes, il faut leur donner l'envie de la mer. Donc, je pense que ce qui est important, c'est justement l'inverse de ce que vous disiez, c'est-à-dire quel absolu on donne, quelle valeur on donne, quel rôle on veut donner à notre pays dans le monde et à l'intérieur, pour lui-même, pour les Françaises et pour les Français, et quels moyens ensuite on se donne pour atteindre cela. Par exemple, sur l'éducation, on met plus de moyens. Sur l'égalité entre les femmes et les hommes, dont j'ai la responsabilité, on met plus de moyens. Il y a 420 millions en interministériel, c'est le budget le plus haut historiquement qui n'ait jamais été atteint. Matignon vient d'annoncer qu'il rajoutait 4 millions pour une grande campagne de communication basée sur ce qui avait été fait pour la sécurité routière, pour interpeller les témoins de violences en direction des femmes. Ça, c'est de l'argent qu'on met en plus dans des réformes qui sont nouvelles.
On voit que les négociations avec les syndicats, notamment de cheminots, ont du mal à aboutir, enfin que ça coince toujours. Il y a ce matin Laurent Berger, qui est le numéro 1 de la CFDT, qui donne une interview aux Échos et qui accuse Emmanuel Macron de ne pas jouer le jeu de la négociation et de vouloir, dit-il, imposer une relation directe avec le peuple dangereuse pour la démocratie. On voit qu'il c'est vrai qu'il y a une manière de tenir un petit peu à distance les syndicats, les organisations syndicales. Il y a une mise à distance également des journalistes. C'est le signe d'une remise en cause de la démocratie, selon vous, comme le dit Laurent Berger?
Non, je comprends à quoi Laurent Berger fait allusion. C'est-à-dire que Je comprends aussi que ce soit un peu déroutant pour des gens de corps intermédiaires. Je rappelle que le président de la République, il a été élu en dehors des partis. Il n'avait pas de parti politique. Il a créé de toutes pièces son propre mouvement. Et donc, lors de sa campagne, il a voulu faire du porte-à-porte et avoir effectivement ce lien direct avec les citoyennes et les citoyens sans les corps intermédiaires, sans ce qu'il appelle des gens qui peuvent vivre de rente de représentation ou de représentativité. Je crois que c'est important, mais je crois que dépasser les corps intermédiaires, ça ne veut pas dire les supprimer. Moi, je crois profondément au rôle des syndicats dans la société. Je suis fille et petite fille de syndicalistes au demeurant, comme je crois au rôle de la presse. La presse, c'est un des pouvoirs qui permet d'équilibrer.
L'une des caractéristiques de cette politique, c'est de, disons, se passer ou de court-circuiter les intermédiaires.
Ça n'est pas de se passer des corps intermédiaires, c'est de les dépasser. C'est-à-dire de considérer qu'à eux seuls, ils ne représentent pas la totalité du peuple français, mais qu'ils ont néanmoins un rôle nécessaire. Sinon, le Premier ministre ne les recevrait pas au demeurant.
Marlène Schiappa, merci bien d'avoir accepté notre invitation donc pour ce journal de France Culture qui s'achève. Un temps orageux s'étend sur le sud-ouest, un temps qui va se maintenir ensoleillé au nord, des températures de 20 à 28 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.